Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger chaîne 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, chaîne 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Marhaba bikoum sur les ondes de la spiritualité durant ce mois de Ramadan, Radio Alger chaîne 3. Et nous sommes ensemble tous les jours de la semaine entre 6h et 7h du matin pour des rediffusions et notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi à 6h et à 14h où nous vous proposons de nouvelles émissions et de nouvelles thématiques. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, après 20 jours de dur labeur, de dhikr, de salat, de siyam, de Qiyam, nous sommes déjà entrés dans les 10 derniers jours de Ramadan, des jours qui n'ont pas leur pareil, mais où il nous est demandé un peu plus d'efforts encore, oui, avec toute la fatigue des 3 dernières semaines.
Oui.
Comment aller justement vers ces 10 derniers jours de Ramadan et comment surtout être sûr d'avoir ce butin?
Tout simplement à coup de persévérance, hein.
Oui.
Même si vous n'en faites qu'un petit peu et que vous le faites bien, bah, ça pourrait sûrement suffire.
Ça veut dire, pour quelqu'un qui travaille, Kamel Shekat.
Écoutez.
Et vous savez que ces dernières années, nous avons gardé pratiquement les mêmes horaires de travail, donc
oui,
on se lève très tôt et puis les journées sont longues.
Il faut tout simplement faire ce qu'il y a lieu de faire selon sa capacité. C'est-à-dire, ceux qui ne vont pas faire des prières nocturnes au troisième tiers de la nuit, le fait que vous assistiez avec l'imam après Salat al-Isha pour la moitié uniquement des tarawih, vous comptabilisera des prières.
Vous parlez
nocturnes.
Des hommes ou des femmes, Kamel Shekat?
Je parle de tout le monde. Les femmes, elles vont à la mosquée généralement au mois de Ramadan pour faire justement Salat al-Tarawih. Ce que nous savons, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, déjà il était au maximum de ce que pourrait faire un être humain tout au long de l'année. Mais quand venaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il en faisait plus. Il réveillait sa petite famille pour faire des prières nocturnes. Et on insiste justement sur la prière nocturne. Ça nous renvoie à un autre hadith. Afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wa an-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. Il y a trois choses que... Alors, répandre la paix, ne serait-ce qu'en saluant. Et vous savez, quand vous saluez quelqu'un, ça, même dans des moments de tension, deux personnes sont en train de se battre, vous arrivez, vous dites « salam alaikum, allez, on se calme ». Les gens, alaikum salam, mais le fait de changer de...
De les distraire.
Ça pourrait justement... Ça pourrait apporter un bien à tout le monde. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi j'ai pour habitude, malheureusement pour nous, nous sommes entrés dans cette prémisse de l'heure dernière qui dit que les derniers temps seront marqués par ce qu'on appelle en langue arabe « tslim al-khassa ». Ça veut dire « ne se saluent que les gens qui se connaissent ». Parce qu'avant, quand les gens marchaient dans la rue, c'était salam alaikum, partout, même dans nos pays. La tradition anciennement faisait que quand des gens se rencontraient dans la rue, ils se disaient salam alaikum. Personnellement, je le fais le matin, très tôt le matin quand je sors de chez moi. Vous savez, vous rencontrez très peu de gens dans la rue. Alors généralement, je dis salam alaikum, ce que je ne ferai pas à midi, à 11h du matin ou à 14h ou à 15h, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. C'est peut-être pour ça que nous ne le faisons pas, mais aussi, il y a un autre problème, c'est que ces 20 ou 30 dernières années, comme nous avons été envahis par ce fléau, cette mort certaine qu'on appelle le wahhabisme, il s'est répandu dans différentes sociétés musulmanes, cette abstention. On a pratiquement peur de dire aux gens « Salamu alaykoum » de peur qu'ils ne nous répondent pas, parce que ça fait vraiment mal. Vous voyez des gens dans la rue, vous leur dites « Salamu alaykoum » et ces gens ne vous répondent pas.
Mais si vous le faites pour Dieu, qu'ils répondent ou pas, peu importe.
Oui, mais bon, attendez, c'est trop facile, je suis désolé. Vous me dites si vous le faites pour Dieu, je le fais pour Dieu. Quand je le fais, je le fais pas pour avoir de l'argent. Je ne sais pas, vous le faites une fois, deux fois, trois fois pour plaire à Dieu. Et puis
la quatrième fois,
je ne sais pas, vous pouvez perdre vos moyens et devenir mauvais ou mauvaise. Et tant qu'on s'abstient, malheureusement, malgré nous, on s'abstient de dire salamu alaykoum. Pour ma part, je le dis même le matin, bon, enfin, parce que les rues sont plus ou moins désertes, je le dis à toute personne que je croise, et je le dis aux dames d'un certain âge. Quand j'ai face à moi une dame qui a l'âge de ma mère, ou même un peu moins, je dis salamu alaykoum.
Donc, chers amis ES, si vous rencontrez Kamel Chekat dans la rue,
il ne vous le dira pas.
Il ne vous salue pas, ne faut pas que vous soyez offensé.
Oui, non, justement, oui. Pourquoi est-ce qu'il a dit...
Mais elles, est-ce qu'elles ont le droit de vous aborder, Kamel Chekat? Comment vous réagiriez?
Comment ça?
Si elles vous abordaient, les filles, en vous disant salam alaykoum, cher.
Je réponds, alaykoum salam wa rahmatullah, tout simplement. Il n'y a pas de problème, bien sûr, je réponds. Ça m'est déjà arrivé, je réponds. Je suis un peu étonné, mais je réponds. Donc, pour revenir au hadith, afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil-layli wa nasuniyam. Ce qui est bien en Algérie, c'est que at'imu ta'am, moi, durant le mois de Ramadan, je me déplace beaucoup pour aller faire des conférences, pour... surtout vers autant l'ouest que l'est, mais beaucoup plus vers l'est. Et je suis toujours agréablement surpris, surtout en allant, bon, je vais beaucoup chez nos frères de Sétif, parce que c'est tout proche, et puis il y a beaucoup de contacts là-bas. Dans la rue, vous êtes intercepté par des... C'est comme des brigands de grand chemin. Et c'était, quand vous subissez ça la première fois, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et les gens vous arrêtent. Attends, vous stationnez, vous allez rompre le jeûne chez nous. Mais non, on est pressé. Ah non, 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 Allah matarha. Et puis, c'est carrément, c'est fait avec une certaine violence. Hein. Donc, at'imu ta'am, nous avons ça dans notre pays. Et puis, sallu bil-layli wa nasuniyam. Ça, c'est une exhortation du messager de Dieu, alayhi salatu salam, pour tout moment de l'année. Mais pour le mois de Ramadan, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on a l'impression qu'il en faisait carrément un cheval de bataille. Pourquoi? Parce que durant la nuit, il y a une heure où toutes les suppliques, toutes les invocations, tous les du'as sont exaucés par Dieu subhanahu wa ta'ala. À plus forte raison, lors de l'une de ces nuits, des 10 derniers jours qui sont carrément des nuits magiques. C'est durant l'une de ces nuits qu'intervient ou que survient Laylatul Qadr, nuit de la valeur ou de la destinée. Nous avons les deux sens dans le Coran.
Il y a déjà tellement de récits par rapport à cette nuit. Hein. Est-ce qu'elle survient dans les nuits impaires, les nuits pères
Ibn Hajar al-Asqalani,
ou carrément dans les 10 dernières nuits?
Il y en a même qui disent, il y en a même, vous savez, certains sont allés jusqu'à dire avant même Ramadan, ce qui est un peu bizarre comme avis, mais ils l'argumentent, ces gens-là. En tout cas, nous, ce dont nous sommes sûrs, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iltamisouha fil ashri al-awakhiri min Ramadan ». Dans un autre hadith, il a été un peu plus précis en disant « il faut la chercher ». Dans les nuits impaires, des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Cela dit, nous avons un hadith rapporté par Muslim, d'après Ubay ibn Ka'b, qui a dit « Wallahi alladhi la ilaha illa hu, innaha la fi Ramadan » parce que certains sont d'avis qu'elle est en dehors de Ramadan. « Wa wallahi inni la a'lamu ayya laylatin hiya » et par Dieu je sais quelle est cette nuit précisément, هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة السبع وعشرين. C'est la nuit où le messager de Dieu عليه الصلاة والسلام nous a ordonné de veiller en prière et c'est la nuit du 27e jour. Ça veut dire le 26e jour au soir. Nous avons aussi un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Ibn Omar رضي الله عنهما qui nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, من كان متحريها Quiconque cherche cette nuit, فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ. Là, il faut opérer une petite halte. Vous avez remarqué sûrement que tous les pays musulmans, tous les pays du monde musulmans, célèbrent justement la nuit du 27e jour, l'île Tsabi'u al-Ishrin.
Oui.
En Algérie, la tradition veut que l'on termine la lecture de Sahih al-Bukhari, fil Jama' al-Kbir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à cela. Nous avons pris aussi l'habitude d'honorer les gens qui mémorisent le Coran ou quelques parties du Coran durant cette nuit. Parmi les autres traditions ou coutumes, nous avons aussi le fait de procéder à la circoncision des enfants. Bon, c'est tout simplement, ça n'a absolument rien à voir avec Laylat al-Qadr, il faut le préciser, parce que certaines personnes en font une priorité, ou même la priorité des priorités. Oui, mais non, mais ça, vous savez, ça a occasionné tellement de désagréments qu'il faut maintenant revoir un peu la chose. C'est pas comme Khatm Sahih al-Bukhari ou bien Tkrim Hafadat al-Qur'an. Et donc, c'est en vertu de ces deux rapports, de ces deux hadiths, que les gens accordent beaucoup plus d'importance à Laylat al-Sabi'u al-Ishrin, la nuit du 27e jour, plutôt qu'aux autres nuits. Maintenant, vous avez ce que j'appelle les super musulmans, et le terme n'est pas du tout usurpé, puisque ces gens-là se réclament de l'Firqa Najia, ça y est, ils ont sauvé leur peau de l'enfer, alors que nous sommes de pauvres innovateurs qui ne peuvent qu'aller en enfer, selon la logique de ces gens-là, vont vous dire Hadi Bid'a. Là, c'est deux hadiths que nous venons de citer. Est-ce qu'ils veulent dire que Laylat al-Qadr survient ou intervient la nuit du 27e jour? Ou bien devrait-on faire une autre interprétation de ces deux textes? Certains sont avis que les choses sont un peu plus claires. Nous avons deux sahaba, deux parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disent que c'était la nuit, à l'époque du messager de Dieu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit leur a été dévoilée par le messager de Dieu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il a été un peu plus clair, c'est la nuit du 27e jour. Mais il y a un autre avis qui dit que Laylat al-Qadr est une nuit tournante. Peut-être qu'à l'année même où ces deux textes ont été dits, c'était la nuit du 27e jour. Et que le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, voulait absolument que sa nation profite de cette nuit du 27e jour. Et à partir de là, il la leur a dévoilée. Mais il se pourrait que l'année d'après, ce n'était pas la nuit du 27e jour, mais une autre nuit impaire parmi les 10 derniers jours.
C'est pour ça que les avis sont divergents.
Cette divergence, nous devons la prendre en considération, mais de là à taxer d'innovateur quelqu'un qui fait le choix de célébrer la nuit du 27e jour, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que vous taxez un musulman d'innovateur. À un degré plus, vous allez le taxer de kafir. Et si nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Le musulman ou le musulman ou le mar ou le mar, il y a kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. » Quand quelqu'un dit à un autre « Oh mécréant », l'un d'eux va forcément supporter le poids de ce mot. Soit celui qui a dit « Oh toi mécréant » le dit à juste titre, et l'autre donc est un véritable mécréant. Mais si l'autre, celui à qui la chose a été dirigée, n'est pas un mécréant, c'est celui qui l'a dit qui va porter ce fardeau. Il devient, aux yeux de Dieu, pratiquement l'égal d'un mécréant, même s'il ne l'est pas. Et si vous dites donc, par extension, si vous dites à quelqu'un « il y a fasiq » ou bien « il y a mubtadi' » « wa laysat fih » « ba biha ahaduhuma » De quel droit vous permettez-vous de jeter l'anathème sur les autres alors qu'ils ont un argument qui leur permette de suivre cette voie?
Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit qu'il y a des gens qui prononcent un mot et puis ils s'enfoncent dans la gêne pendant plus de sabayna kharifa.
Il dit que le kalimata min ghadabillah ou min sakhatillah tahwi bihi fi jahannam sab'ina kharifa. C'est vrai.
On n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qu'on profère, à ce qu'on dit.
Hélas, malheureusement, ces gens-là se prennent carrément pour Dieu.
C'est pour ça, la tardab, la tardab, la tardab.
Et puis non, il y a pire que cela. Il y a ce fameux hadith. Ces gens qui ont passé pratiquement toute leur vie dans l'errance, dans la déviation la plus totale. Certains d'entre eux dans la luxure et dans les déboires, et ils viennent là maintenant se porter juste sur la conscience des gens. et ils se permettent de voir en toute la nation une nation vouée à l'enfer. احنا عندنا حديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم ou bien فهو اهلكهم. Quand vous entendez quelqu'un dire les gens sont perdus, c'est lui le premier d'entre eux à être perdu, ou bien c'est lui qui les a perdus. Parce que à force de dire à quelqu'un, toi tu es un innovateur, toi tu iras en enfer, toi tu n'es pas un bon musulman, toi tu n'as rien à voir avec cette religion, à la limite, la personne en question peut se détourner de cette religion de Dieu, avec tout ce que vous lui infligez comme parole négative. En faisant cela, on peut être à la base d'une volte-face opérée par la personne en question. Et le jour du jugement dernier, quand on sera face à Dieu, il nous le rappellera. Il faut bien se mettre ça en tête. Alors, puisque nous avons déjà parlé de miséricorde et de jeûne, ce qui est bien, justement, dans cette histoire des 10 derniers jours, c'est que si chacun d'entre nous faisait scrupuleusement ou obéissait scrupuleusement à la tradition prophétique, nous allons donc être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout temps, en tout lieu, était comme ce vent salvateur qui annonçait la moisson, ou qui apportait les germes pour polliniser les arbres, etc. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était à l'image de ce vent salvateur, mais pendant le mois de Ramadan, ça prenait une dimension hautement supérieure, il devenait plus que bienfaisant envers les autres. Remarquez dans cette Algérie dans laquelle nous vivons que pendant le mois de Ramadan, il y a tout un mouvement associatif qui apporte beaucoup beaucoup de bien à la société en faisant par exemple des repas qui sont distribués gracieusement à tous ceux qui en ont besoin, aux voyageurs, aux riches, autant aux riches qu'aux pauvres, et puis tous ces couffins qui vont vers des familles démunies, ça apporte un bien. Si certains ne voient pas en cela ou n'arrivent pas à déceler en cela la miséricorde divine, ça veut dire que franchement, vous avez une vision qui est carrément obstruée. Et puis vous avez cette fameuse Laylat al-Qadr. Il est dit, bon, là on va traduire Laylat al-Qadr non pas par nuit de la destinée, comme cela nous est indiqué dans Sourate al-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, c'est au cours de cette nuit qu'est décidé tout ordre immuable. La tradition nous rapporte que Dieu subhanahu wa ta'ala communique à ses anges proches tout ce qui va survenir au cours de l'année. Un tel mourra, il y aura une naissance dans telle famille, un tel récoltera un succès, l'autre
le futur proche.
Oui, absolument. Mais dans Sourate al-Qadr, il est dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Vous imaginez cette manne, cette aubaine, si l'un d'entre nous venait à être en phase ou à être dans l'adoration de Dieu pendant cette nuit, c'est pratiquement l'équivalent d'une vie de salaire ou de ajr qui va venir gonfler ce solde du croyant. Et ça aussi, c'est plus qu'une bénédiction de Dieu, c'est plus qu'une miséricorde, dans la mesure où Dieu nous donne en une nuit seulement la possibilité de sauver nos âmes de l'enfer, de la géhenne, avec un minimum d'adoration. C'est quoi une nuit qu'on va passer à prier et à invoquer Dieu?
Mais on n'est pas sûr de cette nuit, Kamel Shkat, donc il faudra multiplier les nuits.
Vous savez très bien maintenant, écoutez, tout le monde sait que nous avons les plus grandes probabilités, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. 10 jours dans une vie, c'est rien.
Et même 10 jours ou on va cibler les nuits impaires?
Oui, moi, je parle des jours. Oui. Je parle des jours incluant autant la nuit que le
d'accord,
la,
donc
la
faut
période
pas séparer.
Sombre que la période ensoleillée ou illuminée. Écoutez, ça ne sert à rien d'avoir une mauvaise journée et d'aller prier la nuit. Ces gens-là qui vont peut-être grâce à leur poste, soutirer des pots de vin à ceux qui ont besoin de leur service, ou bien des gens qui vont faire du mal toute la journée, je ne vois pas pourquoi vous irez à la mosquée le soir, ça ne sert à rien. Honnêtement, hein, à À quoi cela peut-il servir? Vous êtes en infraction vis-à-vis de Dieu en ayant porté préjudice aux créatures de Dieu.
Mais ils savent très très bien comment. Peut-être que ces gens ont décidé d'aller vers la repentance.
Oui, ça pourrait justement, ça pourrait se faire. Mais n'oublions pas que la majorité des savants nous l'ont dit. Faites ce que vous voulez avec Dieu, mais ne faites pas ce que vous voulez avec les humains. Et ça, c'est une règle d'or. Parce qu'avec Dieu, les voies vers la repentance sont faciles. Elles sont ouvertes.
Que faites-vous de ce verset « Wa rahmati wasi'at kulla shay »
Oui, bon, nous comptons sur la miséricorde de Dieu. Mais
à condition de ne pas réitérer avec les mêmes faits.
Ce qui est dit, c'est la...
La kabira ma istighfar.
La kabira ta ma istighfar. Donc même les péchés les plus capitaux peuvent se voir effacés grâce à une repentance. Ou la sarira ta ma israr. Et il n'y a pas de péché mineur avec une récidive. Vous faites quelque chose de mauvais, vous vous dites, je vais me repentir à Dieu. Allah ibarak. Puis vous le refaites. À chaque fois, vous refaites la même chose. Ce n'est plus un péché mineur. Vous ne faites plus cas de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est à l'image de ces gens-là qui font les 400 coups tout au long de l'année et puis vous dire, ah tiens, le monsieur, il achète le passeport en moyennant un pot de vin. Il va peut-être utiliser de l'argent qui a été acquis de manière illicite et il espère de Dieu qu'il acceptera sa repentance. Soyons sérieux.
Vous êtes donc au cœur de l'islam sur Radio Alger Chaîne 3 et ma foi, nous vivons là les derniers jours du mois de Ramadan. Un invité de marque qui ne vient jamais les mains vides, mais à condition de conjuguer avec ce mois béni, Shahrun Mubarak, et cette fameuse Layla Mubaraka. Inna anzalnahu fi laylati Mubaraka, n'est-ce pas, Kamal Shakat? Kamal Shakat, dans la sourate Al Imran, Dieu subhanahu nous dit. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Puis il nous définit qui sont les muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Puis والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
Alors que vous disent les versets, ceux qui dépensent dans les moments où les choses sont normales, fissera, c'est-à-dire qui sont dans la gaieté, dans la
dans
joie,
l'aisance, peut-être.
Ou dans l'aisance, ou fidra, c'est-à-dire dans les rues d'épreuve, ou el kadimin al ghaid, ceux qui enfouient en eux-mêmes la colère la plus intense, ou el afina anin nas, ceux qui pardonnent aux gens. Donc ces gens-là que décrivent les deux versets, celui-là et celui qui va venir, sont des gens déjà qui dépensent de ce que Dieu leur a accordé comme bienfait, qui s'en mettent d'eux-mêmes dans les colères les plus intenses et qui pardonnent aux gens. Là, le verset vous parle de gens pour lesquels ces qualités sont inscrites dans le comportement au quotidien. Mm-hmm. D'accord. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Ils sont bienfaisants, ils sont dans le bel agir. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ça veut dire que
les muttaqin يفعلون الفاحشة كما شكت.
Non, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent tomber dans l'erreur par faiblesse. Sidna Adam alayhi salam est tombé dans l'erreur par faiblesse et Dieu a accepté son repentir parce que c'est justement il l'a fait par faiblesse. Il n'est pas allé vers l'erreur. Il n'a pas voulu défier Dieu. Donc ces gens-là, eu égard donc ces gens-là, vu ce qui a été cité préalablement, sont des gens qui, lorsqu'ils font une erreur, se repentent illico presto, rapidement. Et nous avons ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit « Ittaqillaha haythuma kunt », crains Dieu pieusement là où tu te trouverais. Et fait suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle l'efface. Comporte-toi avec les gens de la meilleure façon ou avec de manière affable. Ces gens-là, quand ils font une erreur, ils se repentent très très rapidement, même si c'est un péché capital. Ils peuvent le faire, nul d'entre nous n'est à l'abri. C'est pour cela que le messager de Dieu, alayhi sallam, passait son temps à implorer Allah subhanahu wa ta'ala de le maintenir sur ce droit chemin. Ya mutabbit al-qulubi, tabbit qalbi ala al-iman. Oui, c'est ça. Donc le fait que ces gens-là fassent une erreur ne pose pas problème dans la mesure où, quand ils le font, ils se repentent. Nous sommes en train de parler de gens chez lesquels le mauvais comportement fait office de charte. Et ces gens-là utilisent un peu de malice avec Dieu et ils font n'importe quoi. Ya Fulan, Taqillah, tu es en train de faire une chose qui n'est pas admise religieusement parlant. Et le petit pou dit, il n'y a pas de problème. Et non, ça ne marche pas comme ça.
Oui.
Ça ne peut pas marcher comme ça.
Donc il faut un minimum de conscience et d'honnêteté, de sincérité dans son élan
vis-à-vis envers Dieu. Déjà de soi-même. Hein. Et vis-à-vis de Dieu.
Le verset vous dit « Aouzalamou anfousahoum ».
Écoutez, dès lors où vous vous
mettez... Se faire du tort, de quelle façon ?
En vous mettant en infraction vis-à-vis de Dieu. Nous musulmans, je parle de nous tous, hein, nous sommes à l'image d'une classe à qui l'enseignant ou le professeur vient dire « Voilà, tenez ce sujet, allez à la maison, étudiez-le, résolvez les problèmes ». Et dans une semaine, c'est ce que vous allez avoir à la composition, par exemple. Et en dépit du fait que nous soyons tous conscients de cette manne qui nous est offerte, personne ne va travailler le sujet à la maison, personne ne va faire de révision sérieuse. Et le jour des examens, quand nous arrivons en classe, on nous donne le sujet et on va se dire « Ah, mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas travaillé ce sujet ?» Finalement, c'est le même. C'est celui qui nous a été présenté par le professeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une intelligence par laquelle nous savons que notre passage sur terre n'est pas indéterminé. Et du fait que nous soyons acquis à cette religion musulmane, nous savons qu'après la mort, il y a soit un bel endroit appelé le paradis, soit un endroit que je ne souhaiterais même pas à mes ennemis, qu'on appelle la GN, Jahannam. Et en dépit de cela, personne ne travaille pour cette épreuve, pour cet examen. C'est ça.
Et d'ailleurs, on le répète assez souvent en discutant entre amis, « Inna Allah ghafurun rahim », on oublie la suite du verset.
« Wa innahu la shadidul iqab ». Quoique « Inna Allah ghafurun rahim » a toujours précédé « shadidul iqab ». Il est bon de compter sur la miséricorde divine. Dans un hadith authentique, le messager de Dieu a dit « Si les gens savaient en quoi consiste la clémence de Dieu, personne sur terre n'adorerait Dieu. Pourquoi ? Parce que tout nous semblerait acquis. Et si les gens savaient en quoi consiste la punition de Dieu, ça veut dire Dieu est dur en punition. Personne sur terre ne se risquerait à enfreindre le moindre de ses commandements. Nous avons bon espoir en la clémence de Dieu. Et ça, c'est un bon signe. C'est un signe, d'ailleurs, c'est un signe de bonne appartenance à l'islam. Parce que même si vous faites beaucoup, quand bien même vous passeriez votre vie à adorer Dieu, si vous allez au paradis, Inch'Allah, vous n'irez au paradis que par la miséricorde de Dieu. Et là encore, rappelons ce fameux hadith. « Man nuqish al-hisab a'uddib » Celui qui trouve à rechigner ou à remettre en cause le jugement de Dieu le jour de la résurrection sera mis en enfer. L'homme qui a adoré Dieu pendant 500 ans, 5 siècles, et qui, après avoir cette revue balancé les œuvres, dans cette fameuse balance qui va déterminer le salaire, Dieu lui dira « Va au paradis par ma miséricorde. »« Udkhulil jannata bi rahmati. »« Qala wa amali ya Rab » et mon œuvre. Et je t'ai adoré pendant 500 ans. Dans ce fameux hadith, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala posera sur l'une des deux balances ce bienfait qui est la vue. Il le posera sur la balance et la vue pèsera plus lourd que toutes les œuvres. Et là, c'est histoire de dire à cet homme, regarde, tout ce que tu as pu faire n'arrive pas à égaler un seul de mes bienfaits. Qu'en est-il des autres? Et c'est vrai, imaginez, vous allez vers une personne qui est atteinte de cécité, vous lui dites combien tu serais prêt à payer pour avoir la vue, et même de manière partielle, peut-être pendant une année seulement. Combien paierait cette personne?
On connaît tous cet adage, Kamal Shekat, la vue, c'est la vie.
C'est clair, c'est clair. Quoi que nous fassions, nous n'arriverons jamais à égaler ou à arriver à la hauteur des bienfaits de Dieu. Si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. C'est pourquoi il faut toujours se mettre en tête que nous nageons, que nous le voulions ou pas, nous nageons dans les bienfaits de Dieu, dans sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il faut, beaucoup plus faire dans le bon sens que dans le mauvais.
Kamal Shekat, beaucoup de d'oulémas insistent sur le fait que lorsqu'il y a des peines, lorsque nous vivons des situations critiques, lorsqu'il y a des contraintes, c'est plus ça atteint le summum, il faut s'attendre à un dénouement heureux juste après.
Oui, quand Dieu vous dit « Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra »
Deux fois dans
deux la fois, sourate oui. Shar. L'usr ici, c'est-à-dire la dureté de la vie, l'épreuve. L'usr huna mu'arraf, il est déterminé. Avec un alif et lam en langue arabe. Donc, dans les deux versets, le premier usr et le second sont le même. Il s'agit de la même épreuve. Mais quand il dit yusran, ça veut dire que l'yusr qui est cité dans le premier verset n'est pas le même que celui qui est cité dans le second. Pourquoi? Parce qu'il est indéterminé, nakira. Les deux versets auraient dit inna ma'al usri l'yusru. On aurait compris de cela que le second verset vient confirmer le premier, Tawkid. Mais quand il a été dit, inna ma'al usri yusran, ça veut dire que face à la dimension de l'épreuve que vous allez vivre, la chose sera suivie par un dénouement, par une largesse qui sera le double ou le centuple de ce que vous avez vécu comme épreuve. C'est ce que veut dire justement ce verset. Et ça, nous ne cessons de l'apprendre à travers déjà nos petites expériences dans cette vie. Mais nous l'avons vu dans notre entourage immédiat, dans nos quartiers, chez les gens que nous connaissons. Il faut donc essayer de tirer les bons enseignements, puis de se comporter comme il se doit, et avec panache face à ces épreuves qui font la dureté de la vie.
C'est assez largesse auquel il faudra s'attendre, Kamal Shekat, après Ramadan.
Vous savez, le Ramadan, c'est une halte. À l'heure actuelle, nous pourrions même être tentés d'employer le mot « mise à jour ». Si Dieu nous a imposé Ramadan, c'est pour notre bien-être. C'est pour notre bien. C'est pas parce que, ah écoutez, j'ai envie de vous torturer, j'ai envie de m'amuser avec vous. Ça ne s'inscrit pas dans cette logique. Somo tasihu, comme l'a dit le messager de Dieu. Et maintenant, ça y est, c'est d'ailleurs, la chose a tellement pris de l'ampleur que le jeûne devient carrément une mode.
Un mode de vie.
Une mode à l'Occident. En Occident, je suis jeûne intermittent. Oui. Cette halte, Elle est riche en enseignements pour quiconque se donne les moyens de s'instruire de Ramadan. Nous sommes...
Chose qu'on devrait faire avant déjà l'avènement de Ramadan.
Bien sûr, le sahaba, salaf salih, passé les six mois avant Ramadan, a prié Dieu de les faire parvenir à Ramadan. Ensuite, six mois après Ramadan, a prié Dieu d'agréer leurs œuvres pendant Ramadan. Ça veut dire qu'ils étaient... Ils étaient constamment braqués sur Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan, c'était la manne, c'était l'affaire de l'année.
Ouais.
Et donc, nous vivons actuellement, c'est carrément dans des... C'est, la situation, elle a atteint le degré de psychose. Nous avons peur du lendemain. Notre vie est truffée de phobies. Je ne sais pas, je crois que c'est Ibrahim ibn Adam qui disait, il n'y a pas un jour où je me réveille sans qu'Iblis vienne me dire, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas porter? Et où habiteras-tu? Et il a dit, pour couper court à toutes ces idées sombres qu'il vient semer en moi, je dis, ma'akaliya al-turab, wa malbasiya al-kafn, wa maskaniya al-qabr. À la fin, c'est, je vais vers une tombe. Donc le peu que je puisse grappiller de ce monde me suffira. Et on va beaucoup plus se braquer vers l'au-delà que vers le monde d'ici-bas. imaginer que pendant Ramadan, il devient l'institution dans nos sociétés de ne pas trop faire de cuisine, de faire le minimum possible. Imaginez que pendant le mois de Ramadan, nous ayons comme coutume de travailler le double de ce que nous avons l'habitude de faire pendant l'année. Là, nous sommes donc sur deux fronts, l'un qui est d'ordre spirituel, l'autre qui est d'ordre social. Et imaginez que pendant Ramadan, tout le monde ferait de son possible, de son mieux, pour ne pas aller vers la confrontation en cas de gêne, en cas de rixe, en cas de... Nous faisons l'inverse, nous faisons carrément l'inverse. La situation est celle que nous connaissons, elle ne peut pas évoluer. Le mois de Ramadan, vous pouvez comment savoir si nous avons jeûné et observé les commandements de Dieu durant le mois de Ramadan convenablement? Quand les actes de piété, les actes d'adoration se prolongent après Ramadan. Une personne qui, l'année dernière, n'allait pas faire sa prière à la mosquée ou ne faisait pas de prière nocturne, qiyam al-layl. Après Ramadan, cette personne, après avoir passé 30 jours dans un état jugé plus qu'acceptable vis-à-vis de Dieu, cette personne va se retrouver à faire ses cinq prières à la mosquée. Elle fait deux génuflexions, rak'atayn, toute chaque nuit, avant de s'endormir, hein, même pas au troisième tiers. Elle va prendre pour habitude, par exemple, d'essayer d'apporter un bien en prenant en se fixant une aide financière, par exemple, pour une famille démunie. Le minimum, hein, nous ne parlons pas de choses énormes, hein, mais un minimum. Et elle va perdurer sur ce minimum jusqu'à Ramadan qui va venir.
Vous vous parlez d'une certaine régularité dans les actes, alors que j'ai entendu des conférences, des vidéos sur les réseaux sociaux où l'on parle d'une situation bien précise après Ramadan. C'est une certaine sérénité, une certaine joie et un bonheur dans l'adoration du divin.
Écoutez, cette joie, vous allez la connaître chaque nuit, à chaque crépuscule. L'Isra imi farhatan. Quand vous buvez cette première gorgée d'eau après que le muezzin ait dit Allahu Akbar, quel bonheur. Il y a des gens, le jour même de l'Aïd, ils sont face à des tables super bien garnies, ils sont en train de se goinfrer carrément, avec dans la liesse la plus totale. Ça n'est pas cette sérénité dont vous êtes en train de parler, ne l'oubliez pas. Mais c'est ce que nous ressentons tous, nous sommes tous dans
sérénité
cette...
Sérénité et joie et bonheur dans l'adoration.
Dans l'adoration, ça veut dire que les actes se poursuivent. Mmh. Ça veut dire tout simplement que vous êtes dans un maintien du programme de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan, vous avez compulsé le Coran de bout en bout. Et puis... Vous vous dites, tiens, c'est le mois de Choual, mais non, je vais persévérer. Si vous ne gardez que cela, c'est un signe, c'est un signe de l'acceptation du mois du jeûne de la part de Dieu, parce qu'il vous a maintenu sur cette trajectoire.
Il a facilité le chemin.
Le fait que les actes d'adoration vous deviennent faciles signifie que Dieu a agréé vos œuvres. Selon ce que nous disent nos savants.
Excusez-moi de vous interrompre, même lorsqu'on n'a pas compulsé le Coran, lorsqu'on n'a pas passé toute la nuit à faire des prières, il y a un élan du cœur, une sincérité, comme une auditrice qui nous parlait l'année dernière, Ramadan dernier, qui disait qu'elle avait un poste de responsabilité important et qu'elle faisait vraiment le minimum et qu'elle adorait ce mois pour la quiétude qu'elle ressentait assez souvent, qu'elle faisait vraiment le minimum mais qu'elle était bien dans sa peau.
Oui.
Et elle avait hâte d'aller vers les prières. C'était ça, elle faisait les choses normalement. Pas trop de prières surérogatoires, somme, et puis elle prenait soin de toute sa famille. Elle était là, présente.
Oui,
elle n'avait pas terminé la lecture du Coran.
Oui,
elle n'avait pas compilé complètement.
Non, mais attendez, lire le Coran de bout en bout n'est pas une obligation pendant le mois de Ramadan. Mais avoir des moments, des rendez-vous avec Dieu où vous vous adonniez à une récitation coranique, ne serait-ce que 5 minutes, si vous faites ça de manière régulière, c'est déjà un bon signe, une bonne conformité à cette religion.
Après chaque salat, lire 4-5 pages.
Si vous perdurez ensuite après Ramadan, c'est un signe, c'est un signe, selon la majorité des savants, c'est un signe de Kaboul. C'est un signe que Dieu a agréé votre jeûne et que vous avez jeûné convenablement ou comme il se doit. C'est ce que nous disent nos savants. Et ça ne peut être que ça, parce que généralement, vous savez, il y a ce qu'on appelle « khayriyatu zamani wa khayriyatu makan ». Il y a des endroits où les œuvres sont multipliées, comme le fait de faire une prière, par exemple, à la Mecque. C'est l'équivalent de 500 000 prières dans un autre endroit. Et il y a « khayriyatu zaman », il y a les mérites même du moment. Ramadan, le mois de Ramadan, est un moment où les œuvres sont décuplées parce que c'est le mois de Ramadan. C'est un mois où les grâces de Dieu sont beaucoup plus larges qu'elles ne le sont en temps normal. C'est pour cela que la tradition nous appelle à profiter justement de ce moment. Ce que bon nombre d'entre nous ne font pas. Vous savez, si vous lisez les manuels de fiqh, de droit cultuel, du 1er, 2e siècle, chez les malékites et chez les hanafites, les femmes avaient l'habitude de prendre des breuvages qui reculaient ou qui annulaient le cycle, l'ovulation, ce qui leur permettait de jeûner Ramadan en continu. Bien sûr, la chose, même si elle est tolérée par certains avis religieux, il vaut mieux laisser la nature humaine suivre son cours. Les femmes, généralement, quand elles sont indisposées pendant le mois de Ramadan, elles récupèrent le nombre de jours manqués après Ramadan. Et elles peuvent aller, là encore, il y a lieu de parler de miséricorde divine. Sayyida Aïcha nous apprend qu'elle ne récupérait les jours manqués du Ramadan de cette année qu'au mois de Sha'ban, de l'an prochain. Pourquoi faisait-elle cela? Certains vous diront, non, il faut, juste après Ramadan, il faut commencer à récupérer les jours manqués. Nous disons que non, parce que Salaf Saleh ne faisait pas ça. Parce que la miséricorde de Dieu veut que Dieu rétribue beaucoup plus selon l'intention que sur l'acte lui-même. Dieu donne beaucoup plus à ce qui peut motiver l'acte qu'à l'acte lui-même. Inna Allah la yu'ti. C'est pour cela que les gens pouvaient se permettre, bon, j'ai l'intention de récupérer ces jours-là et je vais les récupérer, Inch'Allah, mais on diffère la chose, même quitte à le faire avant Ramadan de l'an prochain. En tout cas, il est bon d'essayer de chercher de voir la miséricorde de Dieu à travers tout ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan. Premièrement, le mois de Ramadan lui-même est une bénédiction divine. Le fait maintenant que les œuvres soient décuplées pendant ce mois, c'est un autre bienfait de Dieu. Alors, Laylatul Qadr, c'est le cadeau suprême. Vous ne pouvez jamais avoir plus que ça.
Alors, Kamel Chekat, cette nuit du pardon est très importante. Je pense que nous avons tous pris conscience de ce que nous devons faire. Faire le minimum, mais le faire bien, surtout pour les femmes.
Faire dans le minimum, mais faire dans la qualité.
Très bien, oui. Alors Kamel Chekat, on continue si vous voulez bien sur ce pardon, sur cette joie. Vous disiez juste avant cette petite coupure, cette petite pause musicale que le musulman vit de bonheur, de joie. La première c'est à la rupture du jeûne, la deuxième c'est à la rencontre de Dieu. Mais certains oulémas disent que la rencontre avec Dieu se fait tout le temps, au moins 5 fois durant la journée. Et une auditrice justement nous écrivait sur Twitter, sur notre page Twitter au cœur de l'Islam chaîne 3, en message privé, qu'elle ne faisait pas grand-chose tout au long de l'année, mais qu'elle était toujours prête pour la salate, qu'elle faisait sa toilette, ses ablutions bien avant d'entendre l'Adhan, et qu'elle était heureuse d'aller à la rencontre de Dieu.
Oui.
Comment continuer dans ce sentiment, et puis comment le goûter à ce sentiment pour nous tous?
C'est, comme le dit si bien un hadith Qudsi, où Dieu justement énumère un certain nombre de bienfaits à l'égard de l'être humain et dira, quand mon serviteur, déjà abdi, ça veut dire quand Dieu dit abdi, ça veut dire que le croyant là a déjà atteint un degré de foi qui est supérieur à celui de...
Maqam al-Ubudiyya, exactement.
D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran des serviteurs du miséricordieux, ibadur rahman, pas ibadullah. Là, nous sommes vraiment dans un cercle très très restreint de croyants.
Subhanalladhi asra bi 'abdihi, quelle nuit, quel voyage et abd.
Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce fameux hadith, nous dit: et si mon serviteur vient à moi en marchant, moi j'irai vers lui en pressant le pas. Et il en est ainsi jusqu'à ce que Dieu nous dise: hatta idha kuntu sam'ahu alladhi yusma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Bon, là nous ne sommes pas dans l'incarnation, attention.
Ça veut dire que l'anthropomorphisme.
Allah subhanahu wa ta'ala assistera cette personne à un point tel qu'elle regardera les choses ou qu'elle aura une vision du monde qui est beaucoup plus basée sur la clairvoyance que sur l'analyse pure, qu'elle aura un usage de son ouïe qui est conforme à ce que veut Dieu. Cette personne, elle passera par des amis qui sont en train de médire, et ben elle évitera de rester avec eux, tout simplement. Donc, c'est une assistance divine en tout lieu et en toutes circonstances.
Le hadith de Awliya Allah, comme le chacun.
Oui, c'est bien sûr, là, vous êtes.
Vous parlez de. On a le hadith.
Bien sûr.
C'est lui-même le wali, comme le chacun.
Bien sûr, tout wali est mu'min, mais tout mu'min n'est pas wali, parce qu'il y a des. Un wali, c'est quoi? C'est un favori de Dieu. Attention, là encore, surtout à nos amis, je dis bien nos amis de Canal Algérie. Ah. Et certains d'Algérie 3, quand ils font des documentaires sur des Awliya Allah Salihin de ce pays, par exemple quand ils parlent de Sidi Abdurrahman Ta'alibi ou bien Sidi Boumdine, Rahmatullahi al-Jami', qui étaient des savants, des mujahidines, etc. Ils disent, oui, Sidi Abdurrahman, le saint patron d'Alger, ou bien Sidi Boumdine, le saint patron de Tlemcen. Vous savez, ce titre de patron, il est exclusivement destiné à Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit notre patron, pas un être humain. Donc ces gens-là sont des favoris de Dieu, Awliyaullah. Et du fait d'être Awliyaullah, ça veut dire qu'ils sont en quelque sorte sous la protection de Dieu. Ils sont des clients de Dieu. Clients, je l'utilise ici dans son sens étymologique. Ça veut dire protégé. C'est pour ça qu'on dit de quelqu'un, quand vous rentrez chez un marchand, quel qu'il soit, vous avez la considération de cliente. Pourquoi? Parce que vous êtes censé être épargné de toute malice de la part ou de tout subterfuge de la part de ce marchand. Parce que vous lui avez fait confiance en entrant chez lui, donc il est dans l'obligation morale de prendre soin de vous. Donc quand on parle de wali, ça veut dire que ce wali a déjà dépassé de loin certaines sphères de la foi et de la croyance. Mais quand nous parlons d'un croyant, il pourrait être aux premières marches de ce cheminement. Il n'a pas encore atteint l'ihsan, qui est le bel agir. Il n'a pas atteint la foi parfaite, etc. Ce qui est sûr, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, nous a imposé ce mois de Ramadan beaucoup plus pour notre bien que pour satisfaire son ego. Nous ne sommes pas face à un régent, un roi qui nous dit « Voilà, tel jour, faites ceci et cela. » Et quand le hadith vous dit « يَفْرَحُ بِفِطْرِهِ وَيَفْرَحُ بِلِقَاءِ رَبِّهِ. » Cette rencontre avec Dieu, elle est beaucoup plus, elle va beaucoup plus s'inscrire dans le jeûne, dans la joie qu'il ressentira après la rencontre de Dieu, après avoir jeûné. Parce que nous l'oublions pas. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans ce fameux hadith Qudsi, hadith divin rapporté par Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Kullu amal ibn Adam alah, toute l'œuvre du fils d'Adam est pour lui. Illa siyam, sauf le jeûne, fa innahu li wa ana adzibeh. Il est pour moi et je suis seul à pouvoir en donner rétribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour du jugement dernier, il y aura un certain nombre de récompenses, de rétributions pour toutes les bonnes actions et peut-être, je dis bien peut-être, j'espère en tout cas que ce sera le cas pour nous tous. Regarde ce que je t'ai donné pour ton jeûne. Parce que toutes les autres actions, il y a des gens qui inscrivent. Ils ont des, est-ce qu'on peut appeler ça des barèmes, mais ils savent quoi donner après une bonne action. Mais là, pour le jeûne, c'est vraiment spécial. Il n'y a que Dieu qui soit au courant de ce qui a été attribué comme récompense au jeûneur ou à celui qui a bien agi pendant le mois du jeûne.
Donc cette fameuse rencontre, elle peut être quotidienne ou c'est la rencontre de l'au-delà, Kamal Shekat?
Moi je pense selon ce hadith que c'est une rencontre qui a beaucoup plus trait à l'au-delà après une prise de conscience de ce qu'a rapporté le jeûne pour chacun d'entre nous.
Et la rencontre quotidienne.
Et la rencontre quotidienne, qu'il y ait Ramadan ou pas, le travail du cœur consiste à aller justement vers cette rencontre de Dieu.
Donc Ramadan, c'est en même temps une mise à jour, mais un aboutissement également.
Ça peut être un aboutissement pour ceux qui vivent le jeûne pleinement et qui le vivent comme il se doit.
Eh bien, merci à vous, Kamal Shekat. Merci pour ce dernier. On ne sait pas si c'est le dernier vendredi de Ramadan ou l'avant-dernier. Puisqu'on est le 23, oui. 23 Ramadan.
Oui, maintenant tout dépendra de l'observation du croissant de lune. Oui. Sommes-nous dans un mois avec un cycle de 30 jours ou pas? Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit, Shahru Hakada wa Hakada. Le mois lunaire, c'est soit 29, soit 30 jours.
On aurait pu avoir l'information exacte, Kamal Shekat, si on s'était fié au calcul astronomique.
Au calcul astronomique. Vous savez, à l'heure actuelle, et dans toutes les déviations que connaissent nos sociétés musulmanes, comme je l'ai déjà dit, la meilleure des solutions serait que les scientifiques nous indiquent le meilleur endroit, le meilleur poste d'observation et que l'on allie observation au calcul. C'est-à-dire nous allons placer des lunettes astronomiques et tout le matériel qui va avec en disant normalement la conjonction aura lieu à telle heure, telle minute et nous commençons à observer et puis voilà, ça s'est produit. Tout le monde serait conforté dans sa foi. La science aura contribué avec ce qu'elle a. La tradition aussi aura contribué avec ce que nous avons hérité du messager de Dieu. Moi, je suis d'avis, comme l'ont été pas mal de savants, que le calcul astronomique est très, très fiable. Mais attention.
Qu'à voir pour les horaires de prière, Kamal Shekat.
Pas uniquement. Les scientifiques vous prédisent maintenant, ou on prédit il y a 30 ans de cela, tel jour, il y aura une éclipse totale et elle a eu lieu à l'heure ou à l'endroit indiqué et à la seconde près. Ouais. Donc, rien n'est plus à prouver. Sauf que face aux esprits sclérosés dans le monde religieux, vous avez, et c'est une forme d'extrémisme, vous avez dans les pôles scientifiques autant d'extrémisme. Il y a des gens pour lesquels la religion est, il y a des gens ou des scientifiques, nous avons des scientifiques dans nos sociétés pour lesquels la science est pratiquement au-dessus de tout ce qui a trait à Dieu, pour ne pas dire qu'elle est au-dessus de Dieu. Mais on vous le fait comprendre. Moi, je vous parle conformément à des données scientifiques fiables. Ça veut dire que c'est plus qu'une religion. Et là, c'est... Maintenant, il faut pas sortir d'un extrémisme pour tomber dans un autre. Ça ne serait pas bon à faire.
Ce qui est sûr, Kamal Shekat, que ce soit le quatrième ou le cinquième vendredi, nous serons avec nos auditeurs de toutes les manières. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée aux 10 derniers jours de Ramadan. Continuez sur votre lancée et puis même faites un peu plus. Ça vaut le coup, allez-y.
Ça vaut le coup. Le jeu, comme disaient les anciens, vaut la chandelle.
Voilà.
On disait ça parce que les théâtres ce qui assurait la lumière, c'était les chandeliers ou les chandelles qu'on allumait. Et par moments, la pièce était tellement médiocre que les gens disaient le jeûne ne valait pas la chandelle. C'est-à-dire que ce que nous avons gaspillé comme chandelle, franchement, cette pièce ne le valait pas.
Non, mais ça vaut le coup, allez-y.
Inch'Allah. Là, ça vaut la chandelle.
Et puis, n'oubliez pas ce fameux doigt. Le dire assez souvent, tout le temps.
On continue.
Et garder son mutisme tant qu'on peut.
De préférence, bien sûr, parce que la langue, elle peut vous faire défaut.
Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de consigner donc vos commentaires, vos relèvements sur notre page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Vous avez également à votre disposition la mailbox. Et on vous dit « Saha siyamkoum, arbit qabal manna ou minkoum ». Bonne journée à tous. Au revoir.